Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Ce matin, nous parlons d'un sujet très passionnant et très touchant, l'éveil et le développement des bébés. De nombreuses études ont démontré que dès la naissance, le bébé sait reconnaître des sons, des visages, des odeurs et a des attentes vis-à-vis du comportement de ceux qui l'entourent. Cela signifie que le fœtus, pendant ses 9 mois de gestation, ne fait que se développer physiquement, mais se prépare aussi à sa prochaine naissance afin d'avoir les facultés de s'adapter au nouveau monde qu'il va découvrir. Nous parlons donc également de l'importance des liens que nous devons conserver avec le bébé dès sa naissance afin de bien l'accompagner et de lui donner toutes les clés pour bien grandir et se construire tant sur le plan physique que psychique. Pour parler de cela, j'accueille donc mon invitée Agathe Stark. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Agathe Stark, vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Alors tout d'abord, nous allons parler de la première partie, la relation et les interactions pendant la grossesse. On parle donc du fœtus et des études psychologiques et biologiques montrent que les apprentissages les plus importants se font avant la naissance, dans le ventre de la maman, à partir du 5e mois. C'est bien ça, docteur ? Bonjour.
Bonjour. Donc, à partir du 5e mois, je crois qu'il y a d'abord une chose qui est importante, c'est-à-dire que c'est le lien qu'on instaure avec ce fœtus-là. À partir du moment où on est dans l'acceptation de cette grossesse-là, on a conscience qu'on a un petit être qui se développe en soi et on se met en lien avec lui et on communique et on partage les moments de la vie extérieure avec cet être qui est en nous. Et c'est ça qui est important.
Alors, les premiers stades de la vie sont importants, vous venez de le dire, et ils conditionnent en grande partie la définition ultérieure de la personnalité. Bébé est déjà un adulte en devenir. Les bébés naissent avec le besoin de former des liens forts avec des adultes aimants et réceptifs. Et les experts parlent de l'attachement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire simplement, en quelques mots, que veut dire ce lien d'attachement ?
Alors, le lien d'attachement, c'est toutes les interactions qu'on met en place, qu'on développe avec son enfant. Le regard, le partage, les sons, ce qu'on lui dit, comment il réagit. On est dans une communication. On envoie un message, vous avez une réponse. Et c'est ça, c'est toute cette relation de qualité, à la fois toute cette attention, toutes ces réponses de façon adaptée à son enfant à un moment précis, et comment il répond. Mais ce qui est surtout important, c'est la régularité et la continuité.
Oui. Hein,
c'est pas un moment où on va bien et bon, on est tout le temps dans le lien, et puis quand on est fatigué, ben on l'oublie. C'est régulier. Un enfant, il n'aime pas ce qui n'est pas vrai.
Oui.
Et ça, c'est important. Et c'est ce qu'on appelle l'attachement, et on appelle un attachement sécure. C'est une présence, des gestes, répondre de façon régulière aux besoins, ce qui constitue un enfant, un attachement sécure, ce qui fait que l'enfant, par la suite, il est stable, affectivement, et il peut aller vers les autres parce qu'il a ce qu'il lui faut chez lui. Il est un attachement sécure, c'est ça, ça permet d'aller vers, ça permet de s'orienter dans la vie. C'est extrêmement précieux, ce temps de l'attachement dans la petite enfance.
Alors, lorsque l'on a négligé cette période de la grossesse à partir du 5e mois et qu'on n'a pas beaucoup porté attention à son enfant parce qu'on vit dans des conditions difficiles, parce que c'est compliqué, peut-être aussi certaines mamans, lorsque c'est la première grossesse, se posent beaucoup de questions. Est-ce que je vais suffisamment aimer cet enfant ? Est-ce que je vais pouvoir m'en occuper ? Est-ce qu'il ne va pas m'apporter trop de difficultés ? Quelles sont les conséquences, justement, de cela, du fait de ne pas porter attention et ne pas accompagner son enfant pendant cette période?
Alors, on a c'est vrai que les conditions de l'arrivée de cette grossesse-là, le partenaire, il y a tout un tas de questions qui se mettent en place.
Ouais.
Néanmoins, après, c'est un processus. C'est-à-dire, à 5 mois, on ne l'est peut-être pas, mais plus les choses avancent, plus la grossesse se développe, plus on prend conscience, plus on est dans l'acceptation de cette grossesse, et plus on imagine ce bébé, comment il sera, etc. Et puis, on a des envies, des projets pour lui. Donc, les choses doivent se faire dans le temps progressivement. Ce n'est pas parce qu'au début, ça ne s'est pas fait qu'il y a un souci par la suite.
Après, il y a des femmes qui sont, par exemple, dans le déni, qui font des dénis de grossesse.
Alors ça, c'est autre chose. Le déni de grossesse, c'est autre chose. On est plus dans un versant pathologique.
Ouais.
Là, c'est autre chose dont il s'agit. Hein. Mais il y a aussi des personnes qui pensent que, des travailleurs sociaux, des professionnels qui pensent que, comme cette femme n'a pas parlé de sa grossesse, comme elle dit, eh ben, j'avais mes règles les 4 premiers mois, je ne pensais pas que j'étais enceinte. Elles le disent. Mais moi, dans mon cabinet de psychothérapeute, oui, quand je les entends, on n'était pas dans un déni de grossesse. C'est-à-dire, on avait quelque chose qu'on ne voulait pas partager avec les autres ou qu'on n'osait pas pour des tas de raisons. Donc, il n'y a pas beaucoup de déni de grossesse, c'est vrai. Quand il y en a, on est vraiment dans le pathologique.
Alors, nous allons écouter un petit micro-trottoir enregistré dans les rues de la capitale par Émeric Coissy. On écoute et on se retrouve juste après, docteur.
C'est un humain, même à partir d'une semaine de grossesse, c'est un humain.
À partir du 3e mois, surtout, il commence à sentir les caresses, il entend déjà la voix de la maman, du papa aussi. Donc, oui, c'est de l'amour, tout simplement.
Je l'ai appris par des sages-femmes qui m'ont dit que l'enfant, il reconnaissait des émotions et tout. Après, faut beaucoup parler avec le petit, il te répond avec des coups. Et la première fois qu'il a donné des coups, je crois que je suis en train de lui parler, je lui disais, est-ce que t'es là? Bah, parce que je réalisais pas que j'étais vraiment enceinte.
Oui. Comment ça se traduit? Eh bien, par les sons, la voix, les sens. Il ressent tout ce qu'on ressent, hein, tout ce qu'on dit aussi. Voilà, c'est dès la naissance, c'est inné.
Pensez-vous que dès sa naissance, votre enfant, il vous connaît? Et comment se traduit ce lien de parenté entre le bébé et la maman?
Chaque jour, il y a un nouveau truc, en fait. L'enfant change chaque jour. Il apprend de nouveaux trucs, il fait de nouveaux gestes, il dit des mots, il commence à rigoler par rapport à avant. Il y a des liens qui se créent, il grandit, en fait. Je n'ai pas d'autre activité, donc je suis tout le temps avec lui, donc il me connaît, il préfère rester avec moi. Déjà, donc, ouais, il y a un lien inné. À chaque fois qu'il il fait des trucs, il regarde maman. Quand il se réveille, il regarde où maman elle est couchée, si elle est là. Et beaucoup d'amour. Mais quand on a une maman, l'amour, ça se fait naturellement aussi.
Alors, l'amour, ça se fait naturellement. L'amour, c'est inné. Est-ce que c'est vrai, docteur?
Ouh, ça, c'est compliqué. Ouais, hein, là, on compliqué. Parle d'instinct maternel, ouais. On parle d'automatisme parce qu'on est un enfant. Parce qu'on est parent, automatiquement on aime son enfant, automatiquement ça vient. Ah ben non, ça vient pas tout seul. Ça se construit, comme je vous disais tout à l'heure, les liens d'attachement se construisent. Donc l'amour, eh ben on déjà quand l'enfant naît, eh ben on le reconnaît et on l'adopte parce qu'on peut ne pas l'adopter parce qu'il y a tout cet enfant imaginaire qu'on s'est représenté pendant qu'on était enceinte. On a imaginé qu'il avait les yeux marrons et les cheveux un peu clairs et puis on sort, c'est pas celui-là. Et il faut laisser la place, il faut évacuer cet enfant imaginaire pour accepter cet enfant qui est de chair et os devant nous avec ce qu'on n'avait pas imaginé. Donc il faut l'accepter, cet enfant qui est là. Et à partir du moment où on l'a accepté, eh ben, on construit des choses avec lui. Et voilà. Et puis l'enfant a sa manière de réagir. Certains disent qu'il a son petit caractère. Donc tout ça va construire le lien avec lui, le lien d'amour aussi.
Alors là, je parle toujours de la période de la grossesse, hein, lorsque c'est toujours un fœtus. Il y a donc le comportement, l'attitude, la communication, les gestes, et puis également les mots que l'on peut dire à l'enfant puisqu'il entend notre voix. Mais il y a aussi ce qu'on mange. Puisque lorsque l'on se nourrit, eh bien l'enfant se nourrit aussi.
Bien sûr, et puis les saveurs, le sucré, salé, ce qui est amer, ce qui est relevé, etc. Bien sûr, il a dans le ventre maternel, il y a tout ce partage des sensations, des saveurs qui se font, bien sûr, au niveau physiologique, tout à fait.
Et le bébé a une mémoire des saveurs.
Il a une mémoire des saveurs. Ça, c'est ce que disent les spécialistes et on l'a remarqué avec des enfants lors de la grossesse. Les parents mangeaient plutôt pimenté, oui, ou plutôt sucré, etc.
Et là, on voit que ça conditionne leur goût pour.
Petit à petit, on le voit. Après, je veux dire que le goût, ça se rééduque, hein. Mais n'empêche, on voit qu'il y a une prédominance quand même.
Alors parlons à présent maintenant après l'accouchement, la première année de vie qui est primordiale pour le développement des principales fonctions sensorielles, motrices et intellectuelles. C'est une étape fondamentale, docteur.
Alors comme je disais tout à l'heure, en effet, c'est une étape fondamentale. C'est ce moment-là qu'on sera dans les apprentissages avec son enfant, qu'on va lui faire découvrir le monde. Et pour découvrir le monde, comme je disais auparavant, il faut qu'il soit dans un attachement suffisamment sécure. C'est-à-dire qu'il sait qu'on l'aime, c'est-à-dire qu'il sait qu'on a des projets pour lui, c'est-à-dire qu'on a de la considération pour lui. Et ça va lui permettre de s'éloigner, de faire des apprentissages, parce qu'il sait que quand il se retourne, il y a le parent qui va pas l'abandonner, qu'il aime. Et c'est ça qui va le permettre d'aller dans l'avant, dans les apprentissages.
Ouais. Alors, les premières années de vie sont très importantes pour établir un lien d'attachement, mais rappelons que ce lien se construit tout au long de la vie, hein, vous venez de le dire. Et aussi, c'est important aussi de parler de la place des papas et du rôle des papas dans l'éveil et l'épanouissement des bébés.
C'est un acteur majeur. Malheureusement, nos papas ont le sentiment que c'est une affaire de la gente féminine. C'est pas une affaire de mère, c'est une affaire de parents, des deux parents. Autant du papa.
Dans certaines cultures, on dit reste avec ta maman tant que tu marches pas, tant que tu cours pas, tu m'intéresses pas trop, quoi.
Eh ben, c'est un tort. C'est un tort. J'écoutais tout à l'heure dans le micro-trottoir une dame dire je suis toujours avec lui, je ne la lâche pas. Eh ben, pour se construire, l'enfant a besoin d'une personne, d'un tiers. C'est-à-dire la relation duelle avec la maman, relation symbiotique. Eh ben, c'est à un moment, c'est un peu embêtant. Il faut qu'il y ait une troisième personne pour faire tiers. Hein, pour que l'enfant soit pas dans cette collusion qui peut par la suite être néfaste pour lui dans le lien avec l'autre, dans les capacités de séparation, etc., etc. Donc c'est extrêmement important que le père ait toute sa place, que le père donne les soins aussi physiques, que le père parle au fœtus, on parlait du fœtus tout à l'heure, il n'y a pas que la mère qui lui cause, c'est aussi la voix du père, le père qui touche le ventre de la maman. Il y a toute cette démarche, ce qu'on appelle l'autonomie ou préparation à la grossesse, justement, les pères ont tout à fait leur place dans cette préparation, qui touchent le fœtus, qui le font déplacer, etc. Donc, il est extrêmement important que monsieur le papa, futur papa, soit présent dès les premières.
Et dire aux femmes de les inclure aussi, parce que des fois, ils ont du mal à trouver leur place.
Ah, il faut.
Avec la montée des hormones, des fois, on les.
Ah, il faut qu'elles mettent et qu'elles gèrent les hormones et qu'elles disent au papa, bon, c'est une affaire à deux et tu dois être là et qu'elles les associent pour tout. C'est extrêmement important parce qu'il faut pas qu'on aille chercher le père plus tard à l'adolescence. C'est dès les premiers temps de vie qu'on l'y met. Et on voit bien quand les enfants sont comme ça dans les premiers temps de la vie où le père est associé, où le père a sa place dans l'éducation, c'est extrêmement constructif et riche dans le développement de l'enfant. Donc c'est dès les premiers temps, messieurs.
Il y a des cas aussi où les enfants vont plus s'attacher au papa qu'à la maman pendant les premières années, par exemple.
Alors, moi, je crois que c'est un leurre. Dire qu'il est, il est plus attaché à moi, tu vois, etc. Ça, c'est un petit peu la rivalité entre les parents. Mais quand on dit aux enfants, par exemple, on a la question du coucher, où on dit oui, quand c'est avec maman, il dort bien, mais quand c'est avec papa, c'est que tu peux en cliquer. Si on dit à l'enfant, écoute, ce soir, c'est le coucher, c'est avec maman, demain, c'est avec papa, c'est comme ça. C'est-à-dire que ce sont les adultes qui apprennent à l'enfant, eh ben, un coup, c'est papa, un coup, c'est maman. Donc, il faut pas non plus que, là, on est dans une démarche où on va instrumentaliser l'enfant, de dire, il me préfère plus que toi, il est plus attaché à moi qu'à toi. Donc, il faut qu'on arrête ça. Il a les deux parents, et c'est aux parents, en tant qu'éducateur, à dire, eh ben, c'est comme ça, c'est avec moi, ou c'est avec ta maman, ou c'est avec ton papa.
Alors, comment favoriser, docteur, un attachement sécurisant? Comment on doit se comporter avec son bébé déjà dans le ventre et une fois qu'il est là, présent? Alors, quelles sont les pistes que vous pouvez donner aux auditeurs qui nous écoutent ce matin?
Alors, les pistes que je donne pour construire, c'est la régularité et la cohérence. La cohérence, c'est-à-dire si son enfant, il mange, je ne sais pas, si l'heure du repas, c'est à peu près entre midi et demi et 13h, et si on a des amis qui arrivent, on dit, écoute, il peut manger à 14h. Non, c'est primordial de donner un rythme, de réassurer l'enfant, parce que si aujourd'hui, il mange à 15h, et hier, c'était à 12h30, etc., il va pas se retrouver. Et ça va le stresser. Ça va le rendre, ça va l'inquiéter. Ça va l'angoisser. Et c'est tout ça qui constitue l'attachement sécurisé. C'est-à-dire la régularité, répondre de façon adaptée aux besoins de son enfant, aux besoins primaires, le nourrir, les soins, etc. Et aussi les interactions qu'on va mettre en place avec cet enfant, qui sont des interactions de bon sens, c'est cette attention bienveillante. Voilà.
Alors l'affection, la tendresse, la constance, hein, vous insistez dessus. Le regard également, le regarder droit dans les yeux pour le rassurer. Pourquoi ?
Non, pas nécessairement. Mais c'est-à-dire que quand on s'adresse à un enfant, on le regarde, on est à proximité. Si vous êtes à l'autre bout de l'appartement et pour lui dire, tu sais, chérie, eh ben on va aller faire du vélo ensemble, etc. Bon, il faut que l'enfant y soit près de vous, qu'il sache qu'on s'adresse à lui. C'est ça, c'est cette proximité qui va faire qu'on est dans le lien aussi quand on s'adresse à lui dans la communication. Ça, c'est important.
Alors, c'est vrai que des fois, face à un bébé qui pleure beaucoup, c'est compliqué, mais c'est important de réagir rapidement aux pleurs du bébé. C'est un peu ce que vous illustriez tout à l'heure quand vous parlez de régularité. Cela permet de ressentir moins de stress.
Oui, mais c'est-à-dire que l'enfant, il sait qu'il y a ce qu'on appelle le portage psychique. C'est-à-dire qu'il pleure, il est nourri, il est sec, et vous ne comprenez pas, et vous lui dites, et qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui fait que tu pleures? Je voudrais t'aider, mais... Donc, on parle à son enfant, on s'adresse à lui. Il comprend pas tous les mots, mais il comprend qu'on a une attention vis-à-vis de lui et qu'on s'intéresse à ce qui est pour lui difficile en ce moment-là. Mais il y a aussi des cas où on n'en peut plus. Et bien là, on le pose, on dit, écoute, tu te mets là, tu te poses là, et puis je ne sais pas, essaie de te calmer, j'essaie de mon côté, parce qu'on peut avoir des gestes complètement inadaptés dans ces moments-là où l'enfant pleure, on n'arrive pas et on panique.
On a l'impression qu'il fait des caprices alors que...
L'enfant ne fait jamais des caprices. Un enfant de cet âge ne fait pas des caprices. On n'a pas trouvé comment le calmer, mais il ne fait jamais des caprices.
C'est important de le souligner.
Jamais.
Au téléphone, c'est Marcus qui nous rejoint. Bonjour Marcus.
Oui, bonjour Esther.
Bonjour à vous.
Bonjour les auditeurs.
Votre case, docteur, pour l'entendre.
Bonjour.
Allez-y Marcus, allez-y rapidement.
Oui, c'est que je vais vous poser une question, mais en fin de compte, pourquoi une telle analyse aujourd'hui? Bon, je vais essayer d'expliquer. Parce que moi, je considère que dans une relation auquel où la vie commence à être en considération par l'ovulation, je pense que c'est là il y a tout un travail à faire. C'est-à-dire, je pense que l'amour même maternel et l'amour paternel se fait dans cette fusion. Mais aujourd'hui, peut-être certains d'entre nous, dans leur rêve et leur idéal, pensent que quand ils ont un enfant, ils voient l'enfant à un certain aspect. Mais en fin de compte, la beauté même de la fusion d'un couple qui s'unit et qui, à l'ovulation, a déjà un début de vie, je pense que c'est la beauté la plus magnifique de
merci à Marcus. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à docteur Marcus? On n'a pas énormément de temps. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cet auditeur?
Oui, ce que vous dites est intéressant. Néanmoins, tout ça, je disais tout à l'heure que c'est un processus. L'enfant grandit et c'est chaque jour suffit pour qu'on voit comment les choses avancent. Et chaque jour permet aux parents de se positionner par cet enfant qui va naître. Et c'est important. Chacun a un rôle, une place à ce moment-là.
Alors, au téléphone, une autre personne, c'est Mariam. Bonjour, Mariam.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute, Mariam.
Oui, merci. Donc, en fait, j'avais deux questions pour le docteur Stark. Alors, la première question, est-ce que bébé ressent lorsque la maman est stressée durant la grossesse? Alors, si oui, comment expliquer, en fait, parce que je vous explique que j'ai deux enfants, comment expliquer qu'un de mes enfants est stressé, donc comme moi, qui suis de nature très stressée, mais le second, par contre... voilà, il zen en fait, il a pas du tout j'ai l'impression qu'en fait il a pas du tout je vais pas communiquer, on va dire entre parenthèses, le stress que je vis quotidiennement. Donc comment cela peut s'expliquer si l'enfant ressent le stress durant la grossesse?
Alors l'enfant ressent le stress durant la grossesse très certainement, mais après vous développez des liens avec lui une fois qu'il naît, il y a d'autres personnes autour de lui. C'est pourquoi je disais le rôle important du père qui fait tiers, il y a d'autres personnes. C'est pas parce que la maman est en permanence stressée, le père ne l'est peut-être pas, ou la grand-mère ou l'oncle ou voilà. Donc il y a d'autres personnes ressources autour de cet enfant-là. Quand vous parlez de la différence entre l'un qui est très stressé et l'autre qui ne l'est pas. Vous savez, quelquefois, les enfants développent des stratégies.
Ouais.
Ils développent des stratégies et ils se rendent compte. À ce moment-là, j'ai repéré que ce sont les moments où c'est difficile. Par exemple, où maman sort du travail. Bon, je vais la laisser tranquille et je vais la solliciter plutôt après le repas où c'est plus cool. Elle a déjà fait ce qu'il fallait pour nous, etc. Donc, il y a des enfants aussi qui ont compris et qui s'adaptent et qui mettent en place des stratégies.
Tout dépend de la nature de l'enfant, en fait.
Bien sûr. D'accord. Et tout dépend de la qualité de l'attachement aussi. Ouais. C'est ce qui lui permet de grandir. Parce qu'il y a plusieurs formes d'attachement, en fait. Oui, il y a de l'attachement insécure, il y a l'attachement insécure, il y a l'attachement qui est un peu... Il y a aussi, dans les cas extrêmes, l'attachement pathologique. Il y a ces enfants aussi qui ne vont pas vers leur figure d'attachement, qui sont les parents, des proches, et qui plutôt développent des relations avec d'autres personnes à l'extérieur parce que c'est pas assez sécure, parce qu'ils n'ont pas confiance, le lien ne s'est pas fait avec l'entourage proche, etc. Donc, c'est ça, les enfants mettent en place des stratégies.
D'accord. Bon, bah, merci beaucoup, vous avez répondu à mes questions.
C'est nous, Maria, merci. On embrasse les enfants, à très bientôt.
Merci,
au revoir. Est-ce qu'il y a des cas, docteur, où on donnerait trop d'amour à un bébé et qu'il aurait des conséquences pour son avenir?
Alors, certains spécialistes qu'on connaît, Dolto et tout ça, disent, bon, trop l'amour tue l'amour. Un enfant, il faut le juste milieu. C'est-à-dire, il faut pas être dans quelque chose d'étouffant. Ouais. C'est pas parce qu'on étouffe son enfant. Enfant, je t'aime, je t'embrasse, j'achète la dernière petite robe, le dernier, etc. Non, l'enfant, c'est le principe de réalité et le bon sens. Ouais. Un enfant a besoin de ça. Principe de réalité, bon sens, régularité. Et c'est pas avec tous ces signes d'objets matériels, etc., lui couvrir le visage, le corps de baisers, etc. Il faut être...
Des fois, on a envie aussi. Hein.
Ah ben, c'est mignon, on a envie de faire des gouzi-gouzas, ouais, mais bah oui. Ben, c'est pas un objet, hein, c'est un être humain. Puis on peut faire des gouzi-gouzas au mari plus qu'à l'enfant. Il faut que chacun ait sa place. On est dans une position d'éducateur avec son enfant. Et ça, c'est crucial.
Alors, souvent, lors de la première grossesse, certaines mamans ont tendance un peu à culpabiliser, à avoir l'impression qu'elles ne sont pas de bonnes mamans. Alors, c'est important de dire votre bébé a seulement besoin d'un bon parent et non d'un parent parfait. Et qu'il ne faut pas s'inquiéter lorsque l'on commet des erreurs. On reste quand même des humains. Tant que le bébé... eh bien, c'est qu'il peut compter sur nous, c'est le plus important.
C'est le plus important. Vous savez, être parent, la parentalité, c'est un processus. C'est pas parce qu'on est en un enfant qu'on est tout de suite parent. On apprend à le devenir au fil du temps et qu'on voit avec le premier, on a fait telle et telle chose. Avec le deuxième, c'est différent. Avec le troisième, c'est différent, etc. C'est-à-dire, c'est un processus et on apprend. On apprend des premières relations avec le premier enfant. Et puis, on a des gens qui sont là, par exemple la PMI, protection maternelle infantile, qui est là pour nous, parce que c'est pas facile, surtout si on n'a pas des proches autour, qui est là pour nous conseiller, pour nous guider. Et ça, c'est important de s'appuyer sur ces instances.
Les sages-femmes aussi.
Oui, les sages-femmes, les premiers temps, quand bébé naît, etc., pour les soins, après, pour la mère, le suivi après l'accouchement. Il y a toutes ces professions. Là, il y a des psychologues pour les enfants, il y a des sages-femmes, il y a des puéricultrices dans les centres de PMI. Il y a tout un nombre de personnes qui sont là pour vous aider et vous n'êtes pas seul. En France, on a la chance d'avoir ces différents dispositifs. La PMI est là pour les 0-6 ans, pour les enfants de 0 à 6 ans.
C'est vraiment génial, la PMI.
Et ça, c'est le seul pays qui a ce dispositif, il faut le savoir, hein. La France est le seul pays à avoir ce dispositif pour les 0-6 ans.
Merci de nous le rappeler, docteur Agathe Stark. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin.
Je vous en prie.
À très bientôt, docteur.
Au revoir.
C'est le moment de marquer la petite pause. On se retrouve juste après pour la suite d'Ambiance Africa. Bougez pas.